Bonjour Céline Pelsé.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints au studio de Radio Royan Vercors à La Chapelle en Vercors. Je suis très contente de vous recevoir aussi parce que nous allons découvrir qu'est-ce que c'est un designer culinaire aujourd'hui.
Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est trop répandu comme pratique. Moi, ma pratique, elle vient donc du design, des arts appliqués. Et aujourd'hui, je dirais qu'elle s'étend à une pratique artistique un peu plus généralisée. Et je travaille en effet principalement avec la matière qui se mange et avec les questions qui sont reliées à ça, et notamment beaucoup des questions liées au paysage et à la manière dont nous, en tant qu'êtres humains, on entretient nos rapports aux paysages dans lesquels on vit, comment on se positionne dans ces écosystèmes et comment on négocie nos relations avec le vivant. Finalement, la matière alimentaire et la situation où on mange, ça devient pour moi un véhicule pour raconter ces histoires, poser ces questions et les vivre ensemble et faire corps avec, puisque chimiquement, on va manger et donc digérer ça et devenir cette histoire-là.
Donc, il y a à la fois une réflexion sur les paysages, sur les corps et puis vraiment sur la matière qu'on mange.
Un peu ce trio-là, ouais. Et du coup, ça reste quand même assez large, hein, parce que quand on parle de paysage, déjà, ça peut être un paysage rural, mais ça peut être aussi un paysage urbain. Et ce paysage, il est constitué de tous ceux qui l'habitent, quoi. Toutes celles et ceux, et humains ou non humains. Et comment les paysages se fabriquent et se transforment, et comment nous, qui nous transformons aussi, on va faire partie de toutes ces métamorphoses. Et savoir les observer, savoir être attentif à ça, et les accepter un peu dans toute leur entièreté.
Donc c'est avant tout un travail de recherche que vous menez.
C'est pas mal de recherche, c'est beaucoup d'expérimentation. Je pense que je suis à une phase de mon travail où je suis encore en train d'expérimenter des manières de se mettre en relation avec le paysage et se mettre en relation avec les autres aussi. Donc finalement, ce que je crée, j'ai l'impression que c'est beaucoup des outils qu'on qualifierait de relationnels. Pour donner des exemples, mon travail, il prend plein de formes différentes. Ça peut être parfois la forme d'un repas qu'on va avoir dans le paysage ou à table, parfois de moins en moins à table. Au début de mon Quand je travaillais au début, je mettais beaucoup l'idée de rapporter l'extérieur à l'intérieur sur la table. Et puis depuis quelques temps, et honnêtement, je pense que la pandémie a un peu accéléré ça, j'ai décidé de sortir la table dehors et du coup plutôt d'aller directement dans le paysage. Et s'il faut emporter quelques trucs avec nous. Mais, donc parfois, ça prend aussi la forme d'une randonnée gustative. Où je travaille avec Alors, je travaille rarement seul, je travaille beaucoup en collaboration avec soit des gens qui sont dans le milieu de la cuisine, soit des gens qui sont dans le milieu de la botanique, ce qui est le cas en ce moment dans le Vercors. Aussi des artisans ou alors tout simplement des habitants qui ont des histoires à partager. Et dans ce cas-là, voilà, on crée des moments ensemble où on va aller aborder le paysage peut-être d'une manière un peu inhabituelle et apprendre à l'observer un petit peu différemment et à essayer aussi d'ouvrir tous nos sens pour mettre peut-être un petit peu parfois le cerveau en pause et réactiver l'odorat, le goût, l'ouïe, etc., le toucher.
Dans cet aspect sensible, c'est là que votre démarche est probablement le plus purement artistique.
Oui, je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a, il y a quand même, malgré tout, je ne peux pas cacher que je suis intéressée aussi par la théorie des projets. Et en fait, finalement, quand je propose une expérience que je partage avec le public, il y a toujours le double outil et je laisse ça au choix du public. Si on n'a pas envie de lire quoi que ce soit et juste réceptionner par l'aspect sensoriel, c'est possible. Et c'est vraiment la bienvenue et c'est ça que j'adore avec l'idée de travailler avec l'alimentation, c'est que c'est universel comme outil. À partir du moment où on a des capteurs sensoriels, ben on peut faire partie de cette expérience. Et puis, parce que j'aime ça, en général, il y a toujours une petite partie plus narrative, plus écrite, que je donne à lire ou à entendre. Et voilà, ceux qui ont envie de s'en saisir s'en saisissent, mais j'essaye que ce ne soit pas obligatoire.
Et pour les paysages du Vercors, comment vous êtes arrivé ici? Quels sont les objectifs? Pour combien de temps?
Alors, je suis ici pour en totalité 4 semaines. J'ai été invitée par l'association Villa Glovette, qui se situe donc à Villard-de-Lans. Et j'ai été invitée spécifiquement pour la période du solstice d'été. Et le solstice d'été, c'est un événement qui a été beaucoup fêté traditionnellement dans des cultures païennes comme religieuses, mais aussi agricoles. Et il y a une volonté, je pense, de Villaglovette de réactiver un peu ce calendrier-là et d'en profiter pour organiser une manifestation publique qui rassemble et qui orchestre tout un panel d'artistes et de poètes, poétesses locaux, locales. Donc moi, c'est là-dedans que je m'insère. Et en tant qu'artiste, designer culinaire, Villaglovette m'a proposé de travailler en collaboration avec un ethnobotaniste qui s'appelle Thomas Ferrand et un céramiste qui s'appelle Étienne Mauroy. On a aussi Mathilde Rouge qui est scénographe. Enfin voilà, c'est toute une composition finalement de disciplines qui vont tisser ensemble une expérience. L'événement s'appelle Le cosmos dans un bol, puisque finalement, le solstice, en fait, ce qui est assez extraordinaire avec tous les phénomènes lunaires, solaires qui métamorphose nos écosystèmes, c'est qu'on part d'un événement qui est cosmique à une échelle complètement démesurée. Enfin, on peut pas vraiment se rendre compte de. Enfin, moi, je me rends pas compte, hein, la taille de la Lune, la taille du Soleil, et puis ces événements cosmiques à cette échelle cosmique ont des conséquences microscopiques sur les plantes, sur parfois nos humeurs, sur les graines, des toutes petites choses. Et on avait envie de faire ce lien-là, de se dire qu'on allait créer un événement qui allait nous permettre de rendre un petit peu plus tangible ce changement d'échelle, quoi. Donc le cosmos dans un bol, c'est le nom de l'événement en totalité. Et avec Thomas, du coup, on va orchestrer ce qu'on va appeler une dégustation sauvage et cosmique qui va se déployer dans le paysage. Ça va se passer au Clos, à Villard-de-Lans. Et ça va à la fois se déployer dans le paysage, donc ça va être une espèce de parcours. Donc l'idée, c'est que les participants vont marcher dans le paysage et puis au long de cette marche rencontrer des petites activations gustatives et narratives qui vont porter en fait cette idée de mettre le cosmos dans un bol. Voilà.
Et vous avez déjà commencé à explorer les alentours de Villard et puis le Vercors plus large.
Ouais, on a commencé à explorer alors de différentes manières. On a exploré avec Thomas. Donc Thomas est spécialisé notamment dans les plantes sauvages et les plantes sauvages comestibles, ce qui tombe bien. Donc on a repéré déjà plein de choses, on a goûté des choses. Il y a plein de plantes en ce moment qui vont être bon, c'est ça qui est assez magique aussi, hein. Les saisons n'évoluent pas toujours de la même manière chaque année, donc on ne sait pas encore exactement ce qui va être en fleurs, ce qui va être en feuilles, mais bon, il y a plein de parties possibles à manger dans les plantes. Donc ça, on a exploré cette partie-là. Et puis,
on peut avoir quelques exemples pour anticiper.
Ouais, alors on a repéré par exemple des angéliques qui sont en train de pousser. L'angélique, c'est une très grande plante avec des fleurs en ombellifère. Et l'angélique...
Ombellifère,
un peu comme un petit parasol à l'envers. Ça se déploie depuis le centre et puis ça fait des... Excusez mon vocabulaire très peu scientifique. Mais en tout cas, c'est ça l'image. C'est une espèce de petit... voilà, parasol qui part du centre et qui se met autour. Et l'angélique, si jamais vous êtes familier avec les fruits confits, c'est en général quand on achète des fruits confits, il y a toujours un petit fruit qui est très vert, très vif et en long comme ça avec des petits stries. Ben ça, c'est de la tige d'angélique. Et en fait, l'angélique est naturellement sucrée. Donc on s'est dit qu'on pouvait par exemple la transformer en sirop assez épais, peut-être pour accompagner... peut-être du fromage ou quelque chose comme ça. On a repéré aussi de la matricaire odorante, qui est des toutes petites plantes. Ça pousse vraiment à plein d'endroits sur l'herbe. C'est très proche du sol et ça fait des petites boules jaunes. Donc il y a une feuille qui est toute dentelée et il y a des petites boules jaunes. Et quand on casse la fleur, donc cette boule jaune, on sent une odeur de fruits exotiques, presque d'ananas. Et ça, c'est vraiment un parfum merveilleux. Donc, on a très envie de travailler avec ça aussi, par exemple.
Enfin, une odeur que nous, on associe à quelque chose d'exotique.
Exactement, ouais, c'est tout à fait un point de vue centré européen de dire ça. Mais c'est ça qui est c'est incroyable aussi dans les plantes sauvages, c'est qu'en fait, on se rend compte que ce qu'on trouve aujourd'hui dans des épices qui viennent de très loin ou des fruits dits exotiques, il y a plein de parfums et de goûts en fait, qu'on peut retrouver dans les plantes qui nous entourent. Même le café, il y a moyen de remplacer aussi le café avec certaines plantes. Ça peut être par exemple des racines de pissenlit toastées. Ça, ça apporte une amertume. Ou la chicorée hein, qui se boit toujours.
Tout ce qui s'étudie à ce moment que vous découvrez va converger dans ces repas. Mais, et vous aurez aussi l'occasion de partager des moments avec un public ici à la Maison de l'Aventure.
Tout à fait. Alors, il y a deux ateliers qui sont prévus dans la région. Un atelier que je vais faire demain à Autran et un atelier qui va se passer ici, à la chapelle en Vercors. Et ces ateliers, c'est des ateliers que j'ai imaginés sur la question de l'hospitalité dans le repas et la manière dont on prend, en fait, dont on prend soin de préparer la nourriture avec la différence de quand on prépare pour soi et quand on prépare pour quelqu'un d'autre. Et puis, c'est aussi l'idée de cuisiner ensemble. Ça va être aussi l'idée de manger dans le paysage et de s'installer dans le paysage sans trop en prendre possession non plus. S'installer un peu discrètement avec le moins d'objets possible. Et puis ça va être aussi un atelier de rencontre entre les gens qui vont participer et comment on mange ensemble alors qu'on ne se connaissait pas une heure avant.
Et à quel public on s'adresse avec ces ateliers ?
Alors ici à la chapelle, je crois que ça va être grand public, c'est ouvert à tout le monde sur inscription. C'est un atelier qui est pour 10 ou 12 personnes, je crois. On va essayer de rester quand même un groupe raisonnable puisque le but c'est aussi de se rencontrer et je pense qu'au-delà de 12 personnes, c'est d'un coup ça devient un gros groupe et c'est moins une échelle de tablé familiale, entre guillemets. Donc, on essaie quand même de faire un petit groupe. Et puis, on va parler aussi de nos cultures culinaires, aussi diverses qu'elles seront. Donc voilà, c'est un atelier de rencontre culinaire autour du repas et des notions d'hospitalité. Il faut s'adresser à Villa Glovette sur leur email qui est sur leur site internet, je pense. Donc voilà, on peut s'inscrire auprès d'eux.
Quelle est la chose la plus surprenante que vous avez apprise en préparant vos ateliers et en préparant ces solstices ?
Alors pour l'instant, plus qu'un apprentissage très précis que je ne saurais pas nommer, je dirais que ce qui me saisit beaucoup, c'est déjà les montagnes en elles-mêmes et leur aspect et les roches et les gorges qui sont dans ce paysage-là et qui me font tout le temps penser à la relation entre la montagne et l'eau et le fait que la montagne, à un moment, a été sous l'eau. Et comme nous tous, en fait, enfin comme toute notre origine. Et je trouve que ça se lit vraiment bien, en fait, quand on marche dans ces gorges ou quand on est près des parois et quand on imagine finalement qu'à un moment, tout ça a été sous l'eau et que nous, en fait, on est en train de se trouver au fond d'un océan. Je sais pas, j'arrête pas en fait d'arpenter ces chemins-là avec cette sensation et c'est très émouvant. Et comme on est dans une saison en ce moment où il pleut beaucoup, il y a pas mal de brouillard et de ciel très nuageux, bah en fait je me rends compte que l'eau est partout dans ces montagnes et on est dans un paysage qui est somme toute presque aquatique. J'oserais dire ça.
Même si elle ne reste pas beaucoup en surface.
Même si elle ne reste pas beaucoup en surface et qu'on connaît des temps de sécheresse. Enfin, c'est ça qui est assez fascinant avec l'eau. C'est qu'elle est très insaisissable. Mais on peut lire en tout cas sa présence originelle, je trouve, en observant les montagnes.
Et puis une autre question sur les contacts avec les publics, les personnes qui participent aux actions. Est-ce que des fois, il vous arrive de rencontrer un peu de l'appréhension face au fait de goûter des choses qu'on n'a pas goûtées. Comment vous y prenez par rapport à ça ?
Oui, alors tout à fait. Parce que finalement, manger, en fait, c'est un acte qui est très intime. On a l'impression que c'est banalisé parce qu'on le fait deux, trois fois par jour. Mais en fait, en mangeant, ce qui se passe, c'est qu'on ouvre un orifice de notre corps et on y met quelque chose de l'extérieur. Quand on met en contact l'extérieur et l'intérieur en ouvrant notre corps, en général, c'est des activités qui se passent dans l'intimité. Alors manger, peut-être qu'on serait plus à l'aise de le faire dans l'intimité, mais notre nature sociale fait qu'on le fait avec d'autres gens. Donc je crois que c'est pour ça aussi que les codes sociaux autour du repas existent, c'est pour éviter justement des situations gênantes en permanence et nous permettre de manger avec des gens parfois qu'on ne connaît pas sans être dans une forme d'intimité trop présente, trop gênante. Donc évidemment, quand moi j'arrive avec mes expériences qui viennent bousculer ça, c'est sûr qu'il peut y avoir des moments de questionnement, de timidité, parfois même, je pense que de brutalité. Hein. Je pense que selon le rapport de chacun à la nourriture, évidemment, ça peut bousculer quoi. Ça c'est quelque chose dont j'ai pas pris tout de suite conscience dans mon travail. En réalité, au début, je faisais mes sculptures comestibles ou des performances, et puis je me disais pas en fait qu'il pouvait y avoir quelque chose de gênant là-dedans. Et puis plus j'avance et plus j'affine ça en me rendant compte en effet que et en étant moi-même parfois gênée dans certaines situations. Alors du coup, j'essaye de travailler au maximum justement sur ces questions d'hospitalité et de se dire qu'à un moment, il faut mettre en confiance, il faut qu'il y ait une confiance qui se crée entre moi et le public. Parce que mine de rien, je pense qu'il y a toujours une forme d'instinct génétique chez nous qui garde toujours en tête qu'on peut se faire empoisonner par la nourriture. Et c'est vrai, hein, d'ailleurs, c'est vrai pour notamment les plantes sauvages. Hein, il ne faut pas non plus prendre tout ça à la légère. Et donc, par exemple, quand j'organise des expériences où ce qu'on va manger ressemble à rien de ce qu'on connaît habituellement, quand je sors avec des formes qui, plastiquement, sont hyper abstraites, dans ce cas-là, moi, je mange en premier pour donner
pour
un signal.
Pour montrer qu'il n'y a pas de danger.
Pour montrer qu'il n'y a pas de danger, puis aussi pour donner le signal qu'on peut manger, parce que j'essaye aussi au maximum de pas trop donner de mots, pas trop d'explications, parce que j'aime bien laisser ouverte aussi toute l'imagination possible. Enfin, si jamais vous connaissiez pas cette histoire, mais l'idée de trinquer ensemble, c'est aussi pour qu'il y ait un petit peu du contenu de chaque verre qui se mélange et pour obliger tous les convives à être sur le même pied d'égalité envers l'aspect sanitaire de ce qui était ingéré. Alors voilà, en fait, moi je travaille sur les gestes d'hospitalité en essayant de gagner personnellement en conscience de ce qui va rendre hospitalier et ce qui va décaler des codes. Donc pour ça, je travaille avec différents outils. Moi, j'ai pas étudié la performance artistique, par exemple. C'est quelque chose qui est pas dans mes cordes.
Qu'est-ce que vous avez étudié d'ailleurs ? Ça, c'est intéressant pour nos auditeurs et auditrices, savoir s'ils veulent se rapprocher de ces métiers, qu'est-ce qu'il faudrait étudier.
Ouais. Alors, ce que j'ai étudié, mon premier métier en réalité, c'est l'architecture d'intérieur. J'ai étudié ce qu'on appelait le design d'espace à l'époque. Je sais pas si c'est toujours la dénomination. Dans une école d'art appliqué qui est à Paris, qui s'appelle l'école Boulle. Donc ça, c'était mon premier métier. Je l'ai fait pendant plusieurs années. Et puis d'ailleurs, ça fait toujours un tout petit peu partie de mon activité, un peu dans l'ombre. Et puis après ces études-là, j'ai repéré, parce que je m'intéressais déjà en fait à travers l'architecture au système alimentaire dans les villes. Et du coup, j'avais repéré qu'il y avait une formation dite de design culinaire dans une école à Reims. Et du coup, je suis allée faire une année d'études là-bas parce que j'étais vraiment curieuse de comprendre ce que c'était et qui était intéressé par ça. Donc j'ai principalement étudié l'architecture intérieure et puis un peu le design culinaire. Et le design culinaire, juste pour donner une idée rapidement, en fait, c'est comme le design d'objets, par exemple, dans lequel on peut créer un objet qui s'adresse à l'industrie, comme à l'opposé un objet de galerie, donc dans un milieu beaucoup plus dans un marché artistique, et ou entre les deux, par exemple, dans une petite maison d'édition. Mon design culinaire, je dirais qu'il y a tout un panel également qui s'ouvre. Ça peut être du design culinaire pour l'industrie agroalimentaire. Je pense qu'il y a des designers qui travaillent chez McDonald's pour imaginer le burger de demain. À l'opposé, il y a une pratique très artistique et prospective dans laquelle j'essaye moi plutôt de m'insérer. Et puis au milieu, il peut y avoir aussi tout l'aspect événementiel. Ça, c'est aussi quelque chose dans lequel j'ai un pied.
Et donc, vous étiez en train de dire, avant que je vous interrompe, que vous n'avez pas fait des études d'art.
Donc, je n'ai pas fait les beaux-arts. J'ai toujours été dans le milieu des arts appliqués et du design. La frontière est toujours très poreuse, je trouve, et c'est compliqué de... Mais disons que moi, mon métier à la base est quand même très lié à des contextes existants. avec des regards sur les systèmes qui régissent ces contextes, systèmes de production, systèmes sociaux, etc. Et puis après, voilà, donc la performance, finalement, c'est quelque chose que j'ai pas étudié, mais qui est la performance, je vais appeler ça la performance, mais l'aspect où j'active mon travail personnellement en étant présente physiquement et avec une réflexion sur des formes de gestes ou sur l'espace, sur la mise en scène. Ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé de manière autodidacte au début et puis ensuite sur le chemin en ayant rencontré, par exemple... en ayant été en contact avec la danse, la chorégraphie, ou alors aussi ces derniers temps avec l'étude de la cérémonie du thé au Japon. Ça, c'est une rencontre extraordinaire qui s'est faite pendant une de mes résidences là-bas, et quelque chose que j'avais pas vraiment prévu de faire, et en fait, j'ai fini par être mise en contact avec un maître de cérémonie du thé qui est également architecte. Alors c'est ça qui est génial, parce que du coup on a beaucoup beaucoup de questions en commun
sur
l'espace du rituel et sur comment créer un espace sans avoir à construire de murs ou de mettre de toit. Et justement en fait toute la subtilité qu'on peut avoir dans l'élaboration d'une expérience avec des invités et des hôtes, et en fait, on peut jouer sur plein de choses. C'est vraiment un terrain de jeu hyper riche, la manière dont on va inviter les gens et qu'est-ce qu'on va leur demander de faire, qu'est-ce qu'on va leur demander de ne pas faire, ou alors qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas, et comment on se saisit de l'espace et de la temporalité aussi. De 18h30 à 21h30 à la chapelle en Vercors. Pour s'inscrire, il faut aller écrire à Villa Glovette. Donc, allez sur le site web de Villa Glovette et vous trouverez leur contact par email. Et puis, si vous avez envie de venir à la fête du solstice, ça va se passer le 30 juin. C'est tout un programme qui commence à 17h jusqu'à 2h du matin, je pense, avec une session d'astronomie. Et pour l'expérience plus gustative, ça va être à 20h. Donc ça, c'est pareil, ça va être sur le site de Villa Glovette, vous pourrez vous inscrire. Je pense que ça va être pour une totalité de 100 personnes, donc il y a quand même pas mal de place.
Et toutes ces activités sont gratuites ?
Alors, l'atelier, ça va être une forme de troc. Le prix de l'atelier, c'est d'amener un légume. Et puis après, c'est une participation volontaire, mais pas obligatoire. Et pour le solstice, ça va être au prix de 5 euros.
Merci.
Merci à vous.